Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
C'est un quartier assez huppé. Pas assez huppé, c'est un des quartiers les plus huppés en fait. High Street Kensington.
Tu vois là, ces apparts là.
Putain, mais t'as même pas idée comment ça vaut. Une fortune. Ah mais là, putain, tu prends 100 mètres carrés, là c'est 40 000 mètres carrés là. C'est la voiture.
C'est quoi comme voiture?
C'est une Maserati, Gran Turismo. C'est un moteur Ferrari. Et voilà, je sais pas, c'est cool comme caisse. Je vais la vendre là, ça me saoule.
Les premières fois, c'est comme tout, tu vois, c'est comme quand tu t'achètes des nouvelles pompes. La première fois que tu conduis, tu dis « waouh, c'est cool » et tout, t'es « ah, oh, putain ». Après, tu banalises, hein, c'est comme tout. C'est comme quand tu mets une bonne fringue, tu vois. Tu peux t'en passer, mais rien de savoir que t'as une bonne fringue qui te plaît, que tu portes. Pourtant, tu marches dans la rue, on s'en branle, mais pourtant, tu kiffes. Voilà, c'est, là, c'est exactement la même chose. T'as l'option sport, là. Donc, en fait, ça lâche les gaz, en fait, beaucoup plus.
Chauffe l'agneau, chauffe.
Ça monte à 300, 310.
Donc tu t'en sers pour aller au travail?
De temps en temps. Un peu le soir quand je vais au sport. Le week-end de temps en temps. Mais ouais, c'est un plaisir. C'est pas nécessaire, j'en ai pas besoin. Mais ouais, c'est un petit plaisir, un petit kiff. De temps en temps, tu vas faire un dîner la semaine. Bah, tu vois, tu prends ta caisse, c'est agréable. T'es dans ton univers, c'est plus sympa. Moi, ça me saoule de prendre les taxis. Tu mets ton petit son, tu vois, genre ça, tu vois.
Ah, tu kiffes, quoi.
Ce sont les fameux Golden Boys, traders trentenaires qui vivent à Londres et y mènent une vie qu'ils trouvent libre, ouverte et pleine de possibilités. Ce ne sont plus les flambeurs fin de siècle à la Bret Easton Ellis, allumés, drogués, brûlant la vie et les billets aussi vite que possible. Ils sont désormais fiers et blasés, riches mais se trouvent pauvres et contents de s'écouter penser pour une fois qu'on leur en demande de ce côté-là. L'un d'eux est vice-président d'une grande institution financière, numéro 3 de la boîte, ascension fulgurante, revenu en conséquence. L'autre, notre personnage principal, si on peut dire, surnommé Super Trader, car il préfère rester anonyme, est directeur des ventes à l'international dans une grande banque de la City de Londres. Bien sûr, il gagne environ 100 000 euros par mois, c'est-à-dire 250 000 de fixes par an, plus 500 000 à 1 million d'euros de bonus annuels. Ils sont tous les deux des enfants d'immigrés, ils ont réussi et nous parlent de leur réussite sans complexe. Jusqu'à 14h, dans les pieds sur terre, la vie en plaque et or de deux Golden Boys, la sortie au pub.
T'entends le V8? C'est joli. C'est comme une femme. Ça c'est le pub, on vient souvent, pub de quartier, tu vois, très relax, les gens viennent manger, viennent boire un verre, c'est super reposant quoi, c'est tranquille. Les gens boivent des bières, ils mangent, t'en as certains qui sont sur internet, ils bouffent des burgers en même temps, d'autres ils sont là en train de boire un petit verre de vin, t'as un mix. Toutes les cultures se mélangent, or t'as des banquiers, t'as des barman, t'as de tout quoi. Tout le monde se mélange et tout le monde se parle assez facilement. Il n'y a pas trop de barrières en fait. Donc on vient souvent manger là la semaine quand on n'a pas le temps de faire à bouffer en fait. Bah tiens, on vit comme des célibataires donc... Excuse-moi, can you see la food? Can we still have food or is it too late?
Vous êtes français.
Ouais. C'est un peu encore à manger ou pas?
Non, on ne sert plus à manger, désolé.
Rien?
Non, c'est fini, la cuisine est fermée.
Donc on va prendre à boire. I'm gonna have a glass of Sauvignon Blanc.
Large.
Large. Two glasses of red wine.
Yes.
And one Coke.
Tu regardes quoi là? Sur ton téléphone?
Ouais, bah tu vois, c'est un bon exemple. C'est mon boss qui m'envoie un email. Là, c'est du boulot. Voilà, tu vois, il est 10h15, je suis en train de boire un verre. Bon, là, heureusement, il m'a pas demandé de l'appeler. Il y a des soirs où, au final, je suis obligé de sortir et de l'appeler. Bon, c'est pas... C'est bon, c'est pas aller travailler dans une mine, hein. C'est pas bien grave, mais... Tu vois, ça te sort un peu de ton moment. Par moment. C'est une gymnastique qui est pas évident à mettre en place. Je pense que l'expérience te permet de l'acquérir. C'est... Tu replonges 2 minutes et en 2 minutes t'es capable de ressortir et d'oublier. Ouais, mais on va en envoyer un autre là. Putain, il me fait chier le boss.
Ça demande quelle qualité, vos jobs?
Je pense que, comme on dit en anglais, il y a les soft skills et les hard skills. Il y a les compétences vraiment très techniques liées au travail. Il y a les compétences plutôt caractérielles et de personnalité en fait. Où les qualités, c'est vraiment la combativité, l'engagement, la force de caractère, la persévérance, le leadership, la motivation, enfin, toutes ces choses-là, en fait. C'est assez intéressant parce que je pense qu'il y a une proportion, mais énorme, de gens qui vont à Londres et qui ne veulent plus retourner en France. C'est un peu une sélection naturelle, c'est un peu la théorie de Darwin, en fait. Les gens qui ont eu l'ouverture d'esprit et la force de traverser la Manche sont au final les gens qui s'adaptent le mieux à l'esprit anglo-saxon, en fait. Très entrepreneurial, prendre des risques, société méritocratique où on bosse. Donc, je pense que c'est pas par hasard qu'il y a énormément de gens qui ont choisi Londres, qui au final ne veulent plus la quitter, en fait.
Attends, il y a un truc super important. Pour moi, c'est sûrement un des points les plus importants. Tu vas peut-être te foutre de ma gueule, mais c'est vrai. Parce que je pense que ça joue énormément dans le contexte. C'est les femmes. À Londres, dans le centre de Londres, t'as vraiment une sécurité. Ça, c'est le premier point. Qui fait qu'une femme à minuit, elle peut se promener dans le centre de Londres tranquillement. En mini-jupe, bourrée, il n'y aura aucun problème. Et deuxième aspect, c'est que les Anglais, ils n'ont pas cette agressivité qu'ont les Français ou les Parisiens, peut-être. J'estime pas connaître toute la France, mais qu'ont les Parisiens lorsqu'ils voient une fille en mini-jupe ou autre. Ce qui fait qu'il n'y a pas cette animosité. Donc je dirais qu'il y a le côté dangereux animosité qu'il n'y a pas à Londres. Ce qui fait que ça désinhibe totalement la ville. Et ça amplifie cette liberté où les filles s'habillent de plus en plus sexy, les hommes l'acceptent de plus en plus. Et on peut dire ce qu'on veut, mais la femme est un point hyper important dans la vie parce qu'elle permet de dynamiser le côté humain de l'homme. Elle permet de maintenir ce dynamisme parce que si avec des mecs dans une ville, bah, je peux dire qu'on se ferait vraiment chier et qu'on sortirait beaucoup moins et qu'il y aurait beaucoup moins de dépenses, crois-moi. Donc je pense que ce côté-là est hyper important.
Petite pensée pour notre pote, ça fait 10 minutes qu'il est sur le Blackberry.
Il y a ce côté, des petits détails de Londres qui changent totalement ta vie au quotidien.
Je pense que ça rentre dans le thème du fait que c'est une société qui est plus décomplexée, en fait.
L'autre jour, j'ai vu une grosse en mini-jupe, enfin, vraiment une très grosse, en mini-jupe, et je peux te dire, elle me regardait, mais un truc, elle allait manger, quoi. À Paris, c'est très rare de voir ça. La grosse, elle est là, en train de cacher ses fesses, de pas regarder parce qu'elle a honte. Je caricature, mais globalement, s'il y a des tendances à faire, ça serait celle-ci.
Alors
quoi? Ça va? Ah, je vais revenir. Attends. Non, bah là, là, je reviens là. Je suis en vacances depuis ce soir. Et là, en fait, bah tu vois, il m'a dit tu m'appelles demain matin et demain on va avoir une heure de call. Écoute, ça fait partie du métier. Y a pas de problème. C'est comme ça. C'est cool. J'ai dû me concentrer. En plus, c'est en anglais, tu vois, donc c'est moins naturel. Donc, t'as un peu tendance à forcer un peu la concentration. Même si ça fait 10 ans que t'es là, c'est jamais comme en français, quoi. Bah non, enfin, non. Enfin, pas pour moi, du moins.
Jamais comme en anglais.
C'est jamais comme moi en français ou comme un anglais en anglais, quoi.
Je pense qu'au niveau de la langue, il y a un cap qu'il faut passer, mais à mon avis, t'en es pas loin. Je pense que t'en es pas loin. Tu reviens de loin, on va dire.
It's possible. To have a bit of bread with olive oil.
Oh,
I'm sorry.
There's no bread available.
Because the kitchen is closed.
Please, it's closed. There's no access to the bread.
Now I ask, but I think it's impossible.
No, it's okay, but just bread. Hein?
Yeah. Là, j'ai juste demandé du pain avec de l'huile d'olive.
Ça, c'est un truc qui va pas changer à travers sa réussite professionnelle, c'est qu'il demande toujours du pain et de l'huile d'olive dans chaque restaurant où on va.
L'avantage ici d'être connu, comme je viens souvent là, c'est que normalement ils ferment les cuisines à 9h et là je demande une petite faveur pour qu'ils nous ramènent du pain à 10h, tu vois. C'est ça les privilèges que t'as quand t'es banquier.
Ça, c'est une preuve de réussite.
Tu vois, la réussite, tu vois, la fierté, tu vois. Tu demandes du pain, après la fermeture, ils te disent ok, on va faire un effort pour toi.
Là, c'est ça la classe.
Cheers. Ruby! Moi, nous, on est un groupe de 5-6. On a tous des personnalités différentes.
On s'est rencontrés à l'école. À l'école, en école de commerce, à Paris, et en master spécialisé.
On ne sait pas combien de temps on va rester, mais on sait que... On va vivre le truc, et pour vivre le truc, bah, il faut aller... Il faut vivre le truc, quoi. Tu vois, il faut y aller, quoi. Donc, tu vois, je sais pas, il y avait une excitation à être là.
Il y a aussi que quand on est arrivé, on cherchait un peu la réussite professionnelle. Et avec cette motivation de se trouver professionnellement, on avait plus la motivation aussi de se construire un environnement, en fait.
Je pense pas qu'il y ait besoin... Il y a pas besoin des psychologues pour comprendre que quand t'es jeune, t'es super excité. La nouveauté, tu vis ça comme un dingue.
Pareil, on n'avait pas 15 ans. On avait entre 25 et 30 ans.
Ouais, mais...
D'ailleurs, entre 25 et 30 ans et toi qui en as 32... Je veux dire, il n'y a pas une différence de dingue. Je pense que, peu importe l'âge, on est arrivé à une même phase. On est arrivé là, peu importe ce qui s'est passé avant, on est arrivé là, on voulait tous réussir. Et on avait tous ensemble cette excitation. Et ça nous a porté pour bouger nos culs, pour passer les entretiens. Et du coup, il y avait cette excitation-là qui transpire aussi sur le week-end. Où on était tous ensemble, on était là, on voulait profiter, on passait des bons moments et... Et voilà. Mais c'est vrai que, enfin, tu veux dire, elles font. Enfin, je réfléchis en même temps, mais non, mais c'est incroyable là. La période de crise en France que tu as depuis 4-5 ans, ça traumatise les mecs en France, quoi. Mais moi, je vois mes potes en France, ils sont traumatisés, quoi.
Ils ont pris ça à la bouche. Hein. La crise, c'est ils la vivent, mais.
Et vous non.
Non, nous c'est la crise, mais tu vois, ça rend notre quotidien un peu plus tendu. Mais tu vois, c'est la vie continue, quoi. C'est moins. Ouais, c'est. En France, c'est que de ça, quoi.
C'est pas par snobisme qu'on dit ça, que nous, la crise, on la vit différemment. Parce qu'on l'a vécu et on a tous les deux été licenciés. On a rebondi, on s'est reconstruit.
Comment ça, vous avez été licenciés?
On a été licenciés par les banques par lesquelles on était employés. Il y a eu un plan social. Et,
je suis resté un an et demi au chômage. Entre 2009 et 2010. Un an et demi au chômage, j'ai dû retourner chez mes parents. J'avais plus de fric, pas de chômage. Et cherchais du boulot de Paris. Et du coup, je me suis relancé après. Lui, pareil, un an au chômage.
6 mois au chômage. La crise, on l'a vécu. On en a été victime. Mais on la transpire différemment, je pense.
Alors qu'en France, t'as les ASDOC. T'as les ACDIC en France. T'as les ACDIC en France. Les gens en France se plaignent plus qu'ici. Ici, t'as que dalle si tu fais virer. Ici, les gens parlent pas, ils vivent leur truc, ils se prennent pas la tête, tu vois. En France, les mecs se plaignent, ils sont là en train de faire une dramaturgie sur la crise. Putain, des fois, t'as l'air, mais fermez vos gueules, quoi. Si tu te fais virer, t'as 2 ans de chômage. T'as de quoi va revenir, non? Enfin, tu vois. Et je trouve que. Il parle d'indécence sur les banquiers et tout ça. Non, mais attendez, à un moment donné, faut arrêter, quoi. Faut arrêter de vous plaindre et...
Je pense que c'est aussi un côté très pessimiste, au final.
On va prendre un verre, là, parce que là, je me sens bien. Putain, mon boss, il m'a envoyé un animal.
Non.
Il est
minuit, 11h. 11h.
11h, 11h15.
T'aimes le vin rouge, hein? Allez, vas-y, bois.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 1. 1, 2, 3, 5, 1.
France Culture, les pieds sur terre.
Alors moi, j'ai pas de passion. J'en ai pas les passions. En fait, moi, j'étais rationnel. Comme j'avais pas de passion, j'avais pas ce problème de me dire putain, j'ai cette passion-là, il faut que je trouve une solution pour en vivre. J'en ai pas. Maintenant, il y a plein de trucs qui m'intéressent, mais c'est pas des passions. Donc j'étais rationnel, je me suis dit, bon voilà, moi j'ai des goûts, j'aime bien les belles voitures, j'aime bien... Je pense être quelqu'un d'assez généreux. J'aime bien faire plaisir aux autres, et je me dis, bon voilà, j'ai envie de faire du fric pour justement pouvoir assouvir toutes ces envies que j'ai, quoi. Et je me dis, voilà, où est-ce qu'il y a l'oseille dans la finance? Est-ce que je peux ou pas? Je pense que ça me paraît pas insurmontable, donc je vais faire des études pour m'amener là-dedans. Après, j'ai fait des stages, j'ai fréquenté des mecs dans ce milieu-là, et je me suis dit, ils ont rien de plus, ni rien de moins que moi. Je me suis dit, pourquoi pas moi, quoi? Et après, c'est une question de comment dire, attends, j'arrive même plus à parler, putain, je suis un peu en taquet aussi. Hein.
Il faut quand même le dire, c'est quand même le directeur, je vais pas dire le nom de la boîte, hein. C'est quand même le directeur monde d'une grosse banque. Des vendeurs.
En fait, ouais, je m'occupe mondialement.
Je suis pas du genre à encenser mon frère, mais là quand même c'est quand même intéressant à souligner, parce que c'est rare dans la City, je pense, à Londres, de voir des cas comme ça. C'est-à-dire que de voir je pense que c'est un des managers les plus jeunes de la City à son niveau. La City, c'est tout le centre financier de Londres qui est bien plus gros que la Défense ou autre. C'est un des centres financiers européens et mondial. Et c'est un des managers les plus jeunes, un des très gros managers les plus jeunes de la City. C'est le responsable sales monde d'une grosse banque, donc c'est quand même assez intéressant de voir ce décalage, en fait, ce qui est intéressant.
À mon âge, c'est assez rare, en fait. En général, c'est un boulot que tu fais quand t'as 45 ans. Là, j'en ai 35. Mais bon, j'ai eu de la chance. J'ai eu des gens qui ont cru en moi. Mais au final, j'étais le chercher, quoi. Donc, je prends ça avec beaucoup d'humilité. Mais en même temps, beaucoup de lucidité. Maintenant, je sais que ça peut s'arrêter demain. Donc, je suis lucide, humble, mais fier de moi.
C'est quoi son caractère ?
On va dire très combatif, très leadership, dans l'élite du leadership. Parfois trop, mais ça fait partie des grosses têtes, on va dire. Donc ça, c'est important. Il faut que ça existe, en tout cas. On va dire que, au-delà de tout ça, quand on dit leadership et grosse force, derrière, il y a peut-être des coulisses qui sont beaucoup plus sensibles. Mais là, on rentre dans des aspects psychologiques qui ne sont pas forcément à détailler tout de suite, quoi. Donc, on va dire que c'est grosse force et sensibilité cachée, peut-être.
Moi, ma force, je la génère de ma sensibilité, en fait. Ma sensibilité, en fait, elle me donne l'envie de me battre. Keep things together, comme ils disent ici. Keep things together, c'est... Putain, j'arrive même plus à m'exprimer correctement en français, mais...
Comment tu vois l'avenir ?
Je sais pas. Ça sert à rien de se prendre la tête sur l'avenir, quoi. Parce qu'au final, ce que tu feras dans 10 ans, c'est rarement ce que tu fais au jour d'aujourd'hui. Je veux dire, le but, c'est de kiffer au jour le jour. Si tu fais un truc et que t'es convaincu que c'est le bon truc, tu sais que c'est bien pour l'avenir. Donc t'as pas besoin d'y penser à l'avenir. Pas trop te prendre la tête, en fait.
C'est vous qui payez, on s'en tape. elle est en dépôt là.
T'inquiète. Ah bah c'est bon ouais.
Tu vas acheter l'Audi A5. T'en achèteras une de l'année d'avant, ça coûtera moins cher. Moi quand j'étais plus jeune, j'avais pas ces espoirs. Parce que je vivais dans la banlieue, c'était morose. Voilà, les mecs, mes anciens potes de l'époque, avec certains, pour certains avec qui je suis en contact encore, tu savais quelle allait être leur vie pour les 10-20 prochaines années. Moi j'avais des potes, ils sont carrossiers, plombiers. Tu reviens dans 20 ans, tu sais c'est quoi leur vie quoi. Je respecte ça. Mais moi, ça m'excitait pas quoi. Moi j'ai la chance de. Si je continue à me battre comme ça et tout, ça me permet de vivre des expériences. Tu vois, je suis à Londres, je suis là, je peux rencontrer des gens, je peux voyager. Enfin, tu vois, ça te donne des opportunités, ça te donne une vie plus excitante, quoi. Plus, avec plus de couleurs, en fait. Tu vois, cette. Tu sais qu'il y a du. Il y a de l'inconnu qui est là et tu sais qu'il peut se passer tout et n'importe quoi et tu sais que ça, tu le vis pas. Quand tu fais pas ça. Voilà, c'est avoir la chance de pouvoir vivre quelque chose de différent le plus longtemps possible. Tu vivras des choses, quoi. Et ça vaut la vie, ça donne la. Enfin. Ça donne à la vie le coup d'être vécu, quoi, tu vois. Et c'est ça qui me pousse vers l'avant, en fait. Je te dis pas qu'il faut être banquier pour vivre ça. Parce que, voilà, quand tu vis ça, tu. T'as accès à d'autres gens, tu vis dans d'autres milieux, ça te donne une forme de liberté. Et ouais, c'est agréable. Mais je l'ai pas volé. Je me dis que c'est pas évident de s'enrichir alors que je gagne pas mal, enfin bien ma vie.
Combien? Tu peux dire ou pas?
Je peux. Ouais, enfin en moyenne.
C'est difficile à dire parce que t'es en transition.
Ouais, chaque année ça dépend, mais tu vois, par exemple, l'année dernière j'ai fait. Tu vois, je gagne 250 000 euros de salaire par an et je fais entre 500 et 1 million d'euros de bonus par an. Voilà. Mais le problème, c'est quand tu enlèves 50%, tu peux dire, le gars, il est millionnaire. Mais non, tu enlèves 50%. Après, pour être millionnaire, après, tu as le coût de la vie. Ok, tu achètes une belle bagnole et tout, okay, c'est cool, c'est génial. Mais. Les gens se disent, putain, les mecs, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais non. Je veux dire, avec ce prix-là, t'as même pas 60 mètres carrés à Paname, quoi. Quand tu pousses le raisonnement, tu dis que même avec ce métier-là, au jour d'aujourd'hui, avec ce qui se passe, c'est la galère pour être millionnaire. Le bar est ferme. Clap de fin.
Il est tard, là.
The bill is paid. It's all paid.
Okay. Thanks very much, guys. Have a nice night. Enjoy.
I got them at my flat, but not with me. Sorry, guys.
Ciao. You're one of the people. You're one of the people now. And no one can see you. No one can see you now. You're one of the people. You're one of the people now. No one can see you. No one can see you now. You're one of the people. Need to, everyone is see-through, stay away from evil, Hairless other people never try to leave you. Slide away like treacle. No one ever keeps you. Hate is never equal. You're one of the people. You're one of the people now. And no one can see you. No one can see you now. You're one of the people.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre et notre retour sûr du vendredi. Nous étions à Londres, bien sûr, comme tout le monde, à l'heure du Brexit ou pas. Un reportage de Julien Cernobori réalisé par Annabelle Brouard et diffusé pour la première fois le 25 juin 2013. Il y a donc pratiquement exactement 3 ans. Sandrine Chaperon, c'était déjà l'attachée de production des Pieds sur Terre. Et heureusement, Clément Comte, c'est notre stagiaire. Vos commentaires, vos partages, c'est sur Facebook. Nous avons une page des Pieds sur Terre et nous avons également un compte Twitter où je vous invite à nous rejoindre. Vous pouvez également podcaster notre émission. C'est très utile et c'est très agréable et c'est bien pratique pour nous écouter où vous voulez, quand vous voulez, sur votre smartphone ou bien même sur votre ordinateur.